1999, année cruciale pour le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, n'est pas pour affoler. Dieu qui contrôle les événements peut très bien les retarder, les canaliser, leur donner un autre cours, mais il peut permettre aussi qu'ils se déchaînent rapidement et entraînent un chaos semblable à un châtiment d'où sortira sa miséricorde. Certes, ce n'est pas la première fois depuis le 29 novembre 1947, date à laquelle l'ONU décida de mettre fin au mandat britannique sur la Palestine et de partager cette terre entre les Juifs et les Arabes, que des confrontations sanglantes ont opposé les frères sémites, les uns réussissant à créer un État sans cesse en expansion, les autres se sentant lésés, dépossédés, refoulés, est souvent mal accueilli dans les pays musulmans limitrophes. Mais il me semble que c'est la première fois que le conflit israélo-arabe risque d'entraîner des événements apocalyptiques, non seulement au Proche-Orient, mais dans le monde entier. Pourquoi? Tout simplement parce que en 50 ans, Israël est devenu une théocratie, c'est-à-dire que ce ne sont plus les politiques qui dirigent le pays, mais les rabbins de Jérusalem, et que ceux-ci affirment que le Messie est proche, que pour l'accueillir il faut reconstruire le temple, et que d'ailleurs on va bientôt retrouver l'Arche d'Alliance. En 1995, je suis tombé sur des vidéocassettes enregistrées en Suisse qui manifestent des reportages remarquablement bien faits, mais extrêmement inquiétants. Il s'agit de ce qui se passe à Jérusalem et plus exactement à l'emplacement de l'ancien temple de Salomon. Des juifs messianiques, notamment les rabbins Shlomo Goren et Yehuda Getz, affirment que l'Arche d'Alliance, disparue en 587 avant Jésus-Christ, lors de l'incendie du temple par les troupes de Nabucodonosor, se trouve en fait dans le sous-sol de l'esplanade qui, sur le mont Moria, supporte le temple. Supporter le temple, mais qui supporte depuis 13 siècles les mosquées d'Omar et d'Al-Aqsa, édifiées elles-mêmes à l'endroit où, selon la croyance musulmane, Mahomet est monté au ciel sur sa jument Burak. On mesure l'importance de l'enjeu. L'une de ces mosquées, d'ailleurs, contient une pierre sur laquelle, dans la tradition musulmane, Abraham a failli immoler son fils Isaac. Et c'est sur cette pierre que la jument de Mahomet aurait pris appui pour enlever Mahomet au ciel, comme le prophète Élie sur son char de feu. C'est dans la croyance musulmane. En fait, tout semble avoir commencé en 1967, quand, profitant de la guerre des six jours, Israël annexa l'ensemble de la ville, qui comptait alors 246 000 habitants. Les images de ces vidéocassettes permettent de voir l'émotion qui s'empara des soldats israéliens et de leur chef, le général Moshe Dayan, lorsqu'ils purent franchir le mur des lamentations. Depuis, des fouilles ont été entreprises en profondeur dans un flanc du mont Moria, permettant de dégager un véritable labyrinthe de galeries et de salles, ainsi qu'un tunnel dit tunnel rabbinique, parce que l'on suppose que celui-ci aurait pu être emprunté par le grand prêtre pour accéder à un saint des saints ultra secret. Autrement dit, Salomon, ayant eu la révélation divine que son temple serait un jour détruit à cause des péchés d'Israël, aurait pris la précaution de creuser au-dessous une série d'abris qui auraient été utilisés pour protéger l'arche et diverses choses importantes, précieuses ou sacrées. Eh bien, cela ressemble fort à la thèse talmudique combattue par Vigourou notamment, selon laquelle le roi Josias, l'un des derniers rois d'Israël, aurait caché l'arche dans un réduit très secret, ménagé par Salomon, en prévision de la prise et de l'incendie du temple. Les rabbins pensent que l'arche sera retrouvée à la venue du Messie, précise Vigourou. Nous y voilà donc. Cependant, les rabbins actuels semblent préférer invoquer l'histoire et la tradition, ce qui est extrêmement vague, plutôt que Josias, car celui-ci a été tué à Magedo par Pharaon Nécao en l'an 609 avant Jésus-Christ, soit 22 ans avant l'incendie du temple par Nabucodonosor. Ou alors Josias voyait loin, et il faudrait admettre que l'arche a disparu non pas en 587, mais plus de deux décennies auparavant. Pour l'instant, on en est là. Car, est-il expliqué dans les reportages, la population musulmane de Jérusalem a pris ombrage des recherches qui s'effectuent sous l'esplanade, donc sous les mosquées d'Al-Aqsa et d'Omar, et a lancé des expéditions furieuses contre les travailleurs, notamment lorsque le bruit courut que l'on était prêt de découvrir le Saint des Saints. La presse a parlé de ces accrochages qui, il y a quelques années, 4-5 ans, ont fait 80 morts. Les autorités israéliennes ont fait suspendre les travaux, dit-on, et sceller le passage. Est-ce que les travaux ne continuent pas clandestinement? On n'en sait rien pour l'instant. Mais selon le grand rabbin Shlomo Goren, on est arrivé, dans ses fouilles, au point le plus proche de l'arche. Autrement dit, il suffirait d'abattre encore, de creuser un peu plus, ou d'abattre un pan de mur ou quelque chose comme ça, de l'une de ces salles, et on trouverait l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, comme l'arche de Noé, et peut-être davantage, car elle contenait les tables de la loi, un peu de la manne du désert, et le bâton d'Aaron, a fasciné bien des imaginations, sans qu'on puisse en établir une liste exhaustive. Faut-il ranger dans cette catégorie le passage du livre des Maccabées, où il est rapporté que c'est en fait le prophète Jérémie qui a caché l'arche dans une caverne du mont Nebo, d'où Dieu avait fait voir à Moïse la terre promise. Fillon, comme Vigourou, estime cette piste plus sérieuse, car elle serait fondée sur des écrits de Jérémie lui-même. Cependant, aucun historien n'a jamais trouvé trace de ces écrits, ce qui fait dire à Jacques Chêne qu'après l'exil des Juifs à Babylone, une légende racontait que l'arche n'avait pas péri, et que Jérémie l'avait cachée comme si elle devait réapparaître un jour. Ce qui est sûr, il suffit de lire la Bible, c'est que Jérémie avait prophétisé. En ces jours-là, oracle de Yahvé, on ne dira plus l'arche de l'alliance de Yahvé, elle ne viendra plus à la pensée, on ne s'en souviendra plus, on ne la regrettera plus, on n'en fera pas une autre. Plus de 5 siècles avant l'avènement de notre Seigneur, le prophète donc montrait en réalité que l'arche allait disparaître et qu'une alliance nouvelle et éternelle, bien supérieure à l'ancienne, allait surgir. Pour la petite histoire, les messianiques actuels en ont fabriqué une identique à l'ancienne, ainsi que divers objets de culte destinés à servir dans le futur. De son côté, le 4e livre apocryphe d'Esdras raconte que ce sont les Chaldéens qui se sont emparés de l'arche. Et dans les cassettes, il est affirmé que le grand archéologue français Pierre Monté, ayant découvert à Tanis près du Nil de l'or pillé par les Égyptiens au temple de Salomon, a espéré secrètement, mais en vain, y trouver aussi l'arche d'alliance, deux points de chute bien distants l'un de l'autre. Ajoutons encore que lors de l'intégration des Juifs éthiopiens à l'État d'Israël, il y a quelques années, la rumeur voulut que celle-ci fût détenue par eux dans l'ancien royaume de Saba, réminiscence peut-être des lointaines relations de la reine de Saba avec Salomon. Et de nos jours, au cinéma, Indiana Jones va lui aussi courant après l'arche mystérieuse. Une certitude en tout cas. L'arche était absente du second temple, dit temple d'Hérode, construit par les Hébreux après l'exil de Babylone pendant plusieurs années et achevé par Hérode et beaucoup plus tard. Et on ne la voit pas figurer dans l'inventaire des objets pillés par Titus lors de la destruction de ce second temple en 70 après Jésus-Christ. Objets parmi lesquels se trouvait le chandelier aux 7 branches, que des juifs messianiques sont allés revendiquer d'ailleurs au Vatican dernièrement. Comme si c'était le Vatican qui détenait le chandelier aux 7 branches. On n'a pas parlé davantage de l'arche quand le temple fut rasé définitivement par les Romains en 132 après l'insurrection de Bar Kokhba, ni même quand il tomba sous la coupe d'Antiochus Épiphane, qui y établit un culte étranger en 168 avant Jésus-Christ. L'arche a donc disparu lors de l'incendie du temple de Salomon, plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Et bien qu'elle fût en bois, voici 2500 ans, au jour où nous parlons. Et bien qu'elle fût en bois d'acacia et recouverte de feuilles d'or au dedans et au dehors, on pourrait s'interroger sur son véritable état de conservation, à moins que Dieu n'y veille. Cependant, l'essentiel, ce sont les tables de la loi, gravé par Dieu dans la pierre. Ce qu'il y a de dramatique dans ces recherches qui se font à Jérusalem, c'est qu'elles s'accompagnent, que l'arche soit retrouvée ou pas, de l'intention de réédifier le temple une 3e fois. sans attendre son éventuelle découverte, ne voit-on pas se former des mouvements appuyés par diverses personnalités catholiques et protestantes prêts à prendre la truelle du maçon? Les images montrent notamment un ancien officier de la guerre des Six Jours, grand blessé, menant un cortège dont l'objectif est de poser sur l'esplanade la première pierre, une pierre d'angle énorme et brute prise au mont Sinaï, et des exégètes d'ouvrir le livre d'Ézéchiel, qui était un prophète qui avait vécu comme Jérémie au moment du sac du temple de Jérusalem par Nabucodonosor, des exégètes d'ouvrir le livre d'Ézéchiel pour nous persuader que tout est écrit de la construction du troisième temple dans les écrits d'Ézéchiel. Or, comme l'indique Filion, le sentiment des saints-pères et des interprètes catholiques est que tous ces chapitres d'Ézéchiel, qui disaient aux Juifs « Ne vous en faites pas, vous êtes en déportation, mais vous retournerez chez vous », etc., et qui leur disaient « Vous rebâtirez le temple », tous ces écrits, là, d'après les interprètes catholiques, sont symboliques. Il n'y faut chercher qu'une allégorie du règne du Messie et de son Église, et non pas des données pour la reconstruction d'un temple matériel. Ézéchiel, en effet, a prophétisé le châtiment d'Israël, sa déportation, puis sa libération et son retour. Et s'il est allé plus loin en indiquant que le temple serait reconstruit, il faut convenir que le second sanctuaire, érigé au fur et à mesure des années jusqu'à Hérode le Grand qui, lui, en a fait quelque chose d'imposant, il faut convenir que ce second sanctuaire ne le fut pas selon les indications d'Ézéchiel, parce que ces indications ne pouvaient être que l'image d'une perfection d'ordre spirituel. Notre Seigneur a pleuré sur Jérusalem. Il a annoncé la destruction du temple, mais non pas sa reconstruction. Au contraire, il a fondé l'Église, Nouvel Israël, en l'assurant que les portes de l'enfer ne prévaudraient point contre elle. De plus, par sa mort et sa résurrection, il a montré que le vrai temple était son corps, et que son sacrifice abolissait les sacrifices de l'ancienne loi. Sacrifice que les juifs messianiques actuels disent vouloir reprendre dès que le temple sera reconstruit et que le Messie à venir en prendra possession. Autrement dit, il faut reconstruire le temple pour accueillir le Messie qui est proche. Et c'est cette idée-là qui sous-tend toute la politique d'Israël. Rechercher l'Arche d'Alliance est une chose, mais reconstruire le Temple est autre chose. En notre temps où l'on exalte les droits de l'homme, retrouver l'étape où Dieu lui-même a écrit le décalogue, serait chargé de signification pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais il est à craindre que les aveugles et les sourds, au lieu de s'abîmer dans l'humilité, ne cherchent à utiliser l'arche à des fins de puissance. C'est pourquoi il me paraît peu probable, je peux évidemment me tromper, que derrière le passage scellé, se trouve ce que l'on espère. Quoi qu'il en soit, il est curieux de constater que l'attrait de l'arche opère alors qu'elle est toujours invisible. On est arrivé au point le plus proche, il suffirait d'abattre un mur, de tendre le bras, Mais on ne l'a pas encore trouvé, on n'a pas abattu le mur. Alors il est curieux de constater que l'attrait de l'arche opère, alors qu'elle est toujours invisible. En effet, elle enflamme les esprits. Elle a un pouvoir d'intoxication très fort. À la limite, dans l'état actuel des choses, ce pourrait être un mythe envoûtant, capable de provoquer une action. En ce qui concerne le Messie, les reportages nous plongent dans le flou. Certains intervenants suggèrent que ce sera peut-être celui qui est venu voici 2000 ans et qu'Israël a refusé. C'est pourquoi on parle volontiers dans ces vidéos de judéo-christianisme. Mais le credo fondé sur l'Évangile nous dit que le Christ, pas plus qu'au premier avènement, ne viendra comme un roi temporel, mais pour juger les vivants et les morts. Jésus est le roi des cœurs, lesquels se doivent de mettre en application ses préceptes. L'arche d'alliance, le temple de Jérusalem, n'ont d'intérêt pour un chrétien que pour les symboles qu'il représentait. Le royaume est ailleurs. En tout cas, la reconstruction du troisième temple en vue de la venue du Messie nécessiterait, ce qu'Ézéchiel n'avait pas prévu, la destruction des mosquées d'Al-Aqsa et d'Omar, dont l'histoire fait de Jérusalem aux yeux des musulmans, après la Mecque et Médine, la troisième ville de l'islam. Déjà, des juifs préconisent son démantèlement et son transport, leur démantèlement et leur transport, s'il le faut, pierre par pierre, en Arabie. Chaque religion, disent-ils, a sa capitale et son sanctuaire principal. Mais nous, nous n'avons plus de temple, sinon seulement un mur pour pleurer. Argument très fort en soi, surtout auprès de la population juive. Alors on le voit, se mettre d'accord sur Hébron entre Israéliens et Palestiniens, c'est déjà difficile. Mais se mettre d'accord sur Jérusalem, si cet état d'esprit prévaut, sera insurmontable. L'islamisme veille aussi très à l'œuvre. Pour l'instant, l'armée israélienne empêche les débordements. Le gouvernement de l'État hébreu, qui considère Jérusalem comme capitale d'Israël depuis 1980, préfère avant toute chose créer un rapport de force en sa faveur en installant des colons juifs à Jérusalem-Est. Dans la cassette, un rabbin est conscient de l'explosion qui menace de la part des musulmans et avoue que reconstruire le temple est humainement impossible. Il attend d'ailleurs que Dieu lui-même le fasse descendre du ciel sur un boîtier de la cassette. On voit un montage qui représente le temple descendant sur les mosquées, pour ainsi dire. Mais ce rabbin-là qui dit que c'est impossible et qui attend tout du ciel, ne sera-t-il pas dépassé par plus radicaux qui risquent, faute de s'être convertis au Christ rédempteur, de plonger les nations dans le chaos? À partir de là, j'ai voulu faire d'autres études quand même, chercher si véritablement ces cassettes étaient une vue de l'esprit ou autre chose. Alors j'ai voulu quand même voir dans des livres, faire des recoupements, approfondir quand même cette question. J'ai lu à ce moment-là trois livres, édités en 1996, en 1993 et en 1997. Pour voir un peu où allait Israël. Ces trois livres sont les suivants. Histoire juive, religion juive, le poids de trois millénaires, écrite par un juif lui-même, Israël Shahak, aux éditions de la vieille Top, en 1996. Puis d'Emmanuel Ratier, Mystère et secret du Bnai Brait, publié en 1993, et d'un autre juif, d'un rabbin français de Paris, Un rabbin dans la cité, 1997. Ces trois livres corroborent, chacun à sa façon, ce que je viens de dire des vidéocassettes sur l'Arche d'Alliance et le Troisième Temple. Pour le premier, Histoire juive, religion juive, Israël Shahak, d'abord se présente. C'est un juif israélien né en Pologne. Il a connu le camp d'internement de Belsen avant de regagner en 1945 la Palestine, où il a fait carrière dans l'enseignement. Actuellement à la retraite, il se présente comme un militant des droits de l'homme, de tous les hommes. À son avis, en tout cas, lui représentant des droits de l'homme, dit ceci, Israël, en tant qu'État juif, constitue un danger, non seulement pour lui-même et pour ses habitants, mais pour tous les juifs et pour les autres peuples et États du Moyen-Orient, et d'ailleurs, c'est-à-dire et du monde entier. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il existe, d'après lui, aussi bien en Israël que dans d'autres parties du monde, notamment aux États-Unis, un mouvement hassidique, c'est-à-dire un avatar grave de la mystique juive, et que ce mouvement comprend des centaines de milliers d'adeptes vouant un attachement fanatique à leur saint rabbin. Saint rabbin dont certains ont acquis une influence politique énorme en Israël, au sein des directions de la plupart des partis, et encore davantage dans les hautes sphères de l'armée. L'auteur a commencé, dit-il, à voir clair à partir de 1956, lors de la guerre de Suez, quand Ben Gourion, pourtant athée et fier de son indifférence pour les commandements de la religion juive, a déclaré devant la Knesset, le troisième jour du conflit, que la véritable raison, le véritable objectif, était de rétablir le royaume de David et de Salomon dans ses frontières bibliques. Voilà ce qu'a déclaré Ben Gourion à la Knesset. À ces paroles, poursuit Israël Shahak, les membres de la Knesset se sont presque tous levés spontanément et ont entonné l'hymne israélien. De fait, ajoute-t-il, une analyse attentive de la stratégie d'ensemble d'Israël et des principes réels de sa politique étrangère, tels qu'ils sont celles-là et ceux-ci formulés en hébreu, car ils parlent entre eux en hébreu, eh bien, une analyse attentive montre clairement que la politique effective d'Israël est déterminée par l'idéologie juive, plus que par tout autre facteur. Aussi reste-t-elle un mystère, ajoute-t-il, toujours renouvelé pour les observateurs étrangers, qui n'y comprennent rien, qui ne tiennent aucun compte de cette idéologie, ni du judaïsme réel, et qui n'en connaissent en général que de grossières apologies. C'est tout. Ces paroles de Ben-Gourion en 1956 seraient à rapprocher de la guerre des six jours en 1967, quand Israël provoqua le conflit et s'empara de Jérusalem, proclamée capitale de l'État hébreu en 1980, comme je l'ai dit, malgré toutes les raisons, les résolutions contraires de l'ONU. Cette vision d'un grand Israël confronté aux réalités de la résistance islamique est-elle dépassée par les accords de paix qui ont octroyé aux Palestiniens une portion des territoires occupés? Rien n'est moins sûr. Si l'on se reporte à la page 75 de ce livre, intitulé « Orthodoxie et interprétation », où est exposé l'aspect le plus étrange de la Kabbale, auquel, faute de temps, je renvoie le lecteur, et où le monothéisme transmis par la Bible est terriblement mis à mal. Il en ressort, d'après ce chapitre de la Kabbale, qu'une unité sexuelle, sikh, ne règne pas toujours dans le ciel, et que le devoir des juifs pieux est de rétablir par leurs prières et leurs actes religieux cette unité afin qu'Israël puisse reprendre son expansion. On atteint là des degrés du luciférianisme, finalement. Une déformation de la Torah, quelque chose qui va plus loin que le Talmud lui-même, qui est déjà lui-même une déformation de la Torah. Beaucoup de mystiques juifs contemporains estiment que cette fin pourrait être atteinte plus rapidement par une guerre contre les Arabes, par l'expulsion des Palestiniens, ou même par la création de nombreuses implantations juives en Cisjordanie. Depuis, c'est bien ce qui arrive. Le mouvement pour la construction du troisième temple repose lui aussi si sur de telles idées, précise l'écrivain. Il ajoute, dans le cas d'Israël, les juifs religieux croient dur comme fer que le cosmos a été créé et que toute l'histoire de l'humanité a suivi son cours à l'unique intention des juifs. Ils attendent en toute confiance et pour bientôt l'érection du troisième temple et ne doutent pas qu'on recommencera à y immoler des animaux. Et ils n'épargnent pas leur peine pour faire de l'État d'Israël une théocratie gouvernée selon la halakha, c'est-à-dire la loi religieuse juive. Dernièrement encore, on a vu dans la presse 250 000 juifs orthodoxes défiler dans le Jérusalem, protester parce que certains des leurs ont été arrêtés et qu'ils sont traînés devant certains tribunaux de l'État israélien. Ils disent que les tribunaux israéliens sont illégaux et que ce sont les tribunaux rabbiniques qui doivent juger ces gens-là. Autrement dit, la halakha, la loi religieuse juive, se substitue peu à peu à la loi de l'État d'Israël. Faut-il ranger dans le mouvement hassidique dénoncé ci-dessus l'organisation internationale du Bnai Brit, qui, sous la forme de loges maçonniques exclusivement juives, a pris naissance aux États-Unis en 1843, qui compte aujourd'hui plus de 500 000 membres dans une cinquantaine de pays, 2500 à 3000 en France quand même, qui exerce une grosse influence sur la plupart des hommes politiques, Chirac par exemple, des hommes politiques en vue, et dont le siège central est désormais en Israël. Autrement dit, on a transféré le siège des Bnai Brit des États-Unis en Israël. Emmanuel Ratier, qui présente un travail colossal sur cette société, ne le dit pas. Dit pas si ça fait partie du mouvement hassidique. cette société, dirait sans doute, s'en défendrait en faisant valoir le but philanthropique inscrit dans ses statuts. Je dirais, nous ne sommes pas des acidiques, on n'est pas des excités, nous sommes une œuvre caritative. Cependant, l'esprit messianique qui anime ses dirigeants transparaît de plus en plus dans leurs discours. Ainsi, en remettant la médaille du Bnaibrait au cardinal de Courtrai, primat des Gaules, le 16 novembre 1991 à Lyon, ici donc, le docteur Marc Aron, président du Bnaibrait pour la France, ne disait-il pas au cardinal « En vérité, ne croyez-vous pas, éminence, qu'après la Shoah, la renaissance de l'État d'Israël, le retour miraculeux des exilés sur la terre de leurs ancêtres, la fin des principaux conflits, les promesses de la conférence de paix de Madrid, nous sommes entrés dans l'ère messianique. Ne croyez-vous pas, éminence, que nous sommes rentrés dans l'ère messianique ? » Voilà ce que disait Marc Aron dans son discours. Et il ajoutait, « Ce qui est dit de l'Ancien Testament, le Nouveau ne le contredit pas. Les dons de Dieu sont irrévocables. La compréhension et le respect réciproque des Juifs et des chrétiens sont également des éléments essentiels de cette ère tant espérée. Permettez-moi de vous citer, disait-il au cardinal. Vous avez dit, « Je crois avec une foi parfaite à une nouvelle venue du Messie. » Et même s'il tarde, je crois. Nos sages disent qu'il dépend de nous, de nos efforts, que le Messie arrive avant l'heure prévue. Alors, disons ensemble, éminence, ce soir, faisons en sorte qu'il vienne ou qu'il revienne un peu plus tôt. Comment on se met un cardinal dans la poche ? Certes, cette déclaration où les efforts de paix sont mis en avant contraste avec la violence des intentions du mouvement signalé par Israël Shaak, on va détruire les mosquées, on va les transporter, etc. Non, c'est plus feutré. Mais quand même, le propos est chargé d'équivoque. En effet, de quel Messie s'agit-il ? De celui qui reviendra pour juger les vivants et les morts ou de celui qui est attendu par Israël comme roi temporel. Les Bnaibrait, ou fils de l'Alliance, travaillent eux aussi à la reconstruction du temple de Salomon. Ils font la quête aussi pour cela. Et par conséquent, l'Église catholique, même si elle a fait beaucoup d'efforts depuis Vatican II en direction des Juifs, voir la déclaration Nostra Aetate, peut-elle se laisser entraîner dans une espérance qui n'est pas la sienne ? Et que veut dire ? Il dépend de nous, de nos efforts, que le Messie arrive avant l'heure prévue. Quelle heure prévue ? Par qui ? Il y a là comme une fébrilité qui rejoint celle du mouvement hassidique. Ces gens-là sont pressés. Alors malgré tout, il y a certains rabbins de la diaspora qui commencent à être un peu inquiets. C'est le cas de Gilles Bernheim, qui a écrit un livre qui s'appelle « Un rabbin dans la cité ». C'est un rabbin de 44 ans, des universités de Paris. Dans son livre « Un rabbin dans la cité », il écrit « Chaque juif se sent concerné et solidaire de l'avenir de l'État d'Israël, jusqu'au plus profond de ses fibres et de son être. Cette résurrection nationale, après 2000 ans d'exil et de persécution antisémite, a bouleversé de manière irréversible la conscience juive, entraîner des modifications profondes de l'identité juive, tant en Israël qu'en diaspora, et transformer l'image du juif pour lui-même et les autres. Aucun juif, un tant soit peu concerné par son peuple, n'a pu en son temps échapper peu ou prou au sentiment que les circonstances mêmes dans lesquelles la résurrection de l'État d'Israël s'est produite lui ont conféré un caractère providentiel et messianique, et que cet événement avait en quelque sorte un caractère politique et religieux. C'est évidemment ce mélange détonnant de politique et de religieux, même quand il est proprement laïque, ajoute-t-il, qui contribue à rendre les choses si complexes en Israël et au Moyen-Orient. Mais ayant fait ce constat, Gilles Berneil, qui concilie en lui l'orthodoxie et l'ouverture, et qui pour cette raison a raté son élection au Grand Rabbinat de France en 1994, c'est Joseph Sigtruck qui a été élu à sa place, ce Gilles Berneil tire un double signal d'alarme au sein de sa communauté. Premier signal d'alarme. J'entends que l'on se les félicite du ressourcement culturel et religieux de la société juive française, dit-il, mais cette réussite ne nous égare-t-elle pas? Un enthousiasme étrange est né au cours des dernières années et agite une partie de la rue juive d'une rumeur selon laquelle les temps seront bientôt accomplis. Cette impatience toute messianique, oublieuse de tous les désastres que de tels engouements ont causés dans le passé, est également oublieuse de notre histoire. Mais plus encore, cette impatience devant le cours de l'histoire devient aveuglement et fait l'économie de la complexité du monde et de la diversité des hommes. Deuxième signal d'alarme. Le réveil de la pratique religieuse chez un nombre croissant d'individus se traduit par un accès enthousiaste au monde de l'étude talmudique, mais semble parfois s'accompagner d'un rejet du mode de pensée occidental, de la culture politique européenne, de la notion de devoir du citoyen ou encore du sens de la responsabilité envers la collectivité nationale. Autrement dit, selon lui, beaucoup de Juifs, tant en Israël que dans la diaspora, emportés par un mysticisme exacerbé, même chez les laïcs, commenceraient à ne plus avoir les pieds sur la terre. Plus explicite encore, il avertit. Des périodes de retour vers la foi, il y en a eu beaucoup dans l'histoire du peuple juif. L'erreur consisterait à voir en cela que le Messie est proche. Je considère qu'il faut tout faire pour que le Messie vienne aujourd'hui, tout en imaginant qu'il peut venir beaucoup plus tard. Et plus loin, il me semble que la vocation et la noblesse du judaïsme, religion d'adulte, dit-il, sont d'apporter de l'inconfort et du doute là où les hommes ploient sous les certitudes, et aussi d'éduquer à une sagesse qui est celle de l'incertitude. Voyez, il se dit dans quelle aventure risquent de nous entraîner les rabbins d'Israël. Voilà ce que dit cet homme, ce rabbin. Donc à travers ces trois livres, on voit que la situation en Israël n'est pas simple et qu'une menace pèse sur le Moyen-Orient et par conséquent sur le monde entier, contrairement au chloroforme médiatique actuel, quoi qu'on commence à être un peu inquiet. J'ai volontairement laissé de côté dans ces recensions les propos déformants concernant la religion catholique et les évangiles tenus par les principaux responsables de l'antisémitisme et de la Shoah. Ce serait un autre sujet, et tout ceci me semble dépassé par les fondamentalismes juifs et musulmans qui s'affrontent à propos de Jérusalem sur l'esplanade même de l'ancien temple de Salomon. Celui, selon le juif américain Gore Vidal, qui préface l'ouvrage d'Israël Shaak, la reconnaissance précipitée de l'État d'Israël a eu pour conséquence 45 années de tohu-bohu meurtrier et l'anéantissement de l'espérance des compagnons de route du sionisme. L'espérance en un avènement d'un État pluraliste qui, tout en demeurant la patrie de sa population indigène de musulmans, chrétiens et juifs, serait devenu aussi la patrie d'immigrants juifs pacifiques d'Europe et d'Amérique, y compris la patrie de ceux qui affectaient de croire que le grand agent immobilier des cieux leur avait attribué à perpétuité les terres de Judée et de Samarie. La plupart des immigrants étant de bons socialistes d'Europe, nous supposions qu'ils n'admettraient pas la transformation du nouvel État en une théocratie et que les natifs de Palestine pourraient vivre avec eux en égaux. Il ne devait pas en être ainsi. Pour Israël Shaak, ce danger ira croissant tant que l'on continuera de renforcer deux ordres de facteurs opérant dans le même sens, le caractère juif d'Israël et le développement de sa puissance, notamment de sa force nucléaire. À cela s'ajoute un autre facteur inquiétant, l'accroissement de l'influence israélienne sur les milieux dirigeants des États-Unis. Un peu plus tard, j'ai voulu encore approfondir le sujet. Et j'ai lu un reportage écrit en 1967 au moment de la guerre des Six Jours. Et le dernier livre du secrétaire, de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, Le chemin de Jérusalem. Ce ne sont pas des amis qui parlent, hein. Mais on trouve chez eux quand même une inquiétude. Voyons pour Israël et les Arabes. Écrit par Éric Rouleau, Jean-Francis Held, Jean et Simone Lacouture, des journalistes du Monde, du Nouvel Observateur, de ceci, de cela, quoi. Bon. Ils vont jusqu'à dire quand même que récemment, là maintenant, dans les derniers événements qui ont eu lieu aux États-Unis, quand on lit le Monde diplomatique, tout ça, ces mêmes journalistes qui étaient en poste en Israël et en Égypte en 1967 vont jusqu'à dire que l'affaire Monica Lewinsky a été montée par le lobby juif du Congrès américain pour faire marcher au pas dans une guerre au Proche-Orient, le dénommé Clinton. Ils vont jusqu'à le dire, l'écrire. On se demande dans quelle mesure il n'a pas été destitué alors qu'il y avait un tollé d'ordre général là-bas. Mais on s'aperçoit que malgré tout, maintenant, ces avions bombardent l'Irak, que tout à faire monter des observateurs, etc., on s'aperçoit qu'on cherche à créer un espèce de chaos là-bas qui permettrait une action peut-être en Israël, comme la guerre des Six Jours, qui a été une guerre préventive par surprise, a permis la prise de Jérusalem. Ce n'était pas programmé dans les sphères politiques, cette prise de Jérusalem. Mais la guerre des Six Jours a fait que les Juifs ont pris Jérusalem. Bon. Éric Rouleau, dans Israël et les Arabes, et Jean-Francis Held, étaient, comme je l'ai dit, en 1967, respectivement envoyés spéciaux du Monde en Égypte et du Nouvel Observateur en Israël. Dans ce livre, ils répondent, sitôt la fin de la guerre des Six Jours, à Jean et Simone Lacouture, qui dirigeaient alors les collections L'Histoire immédiate et Petite Planète, aux éditions du Seuil. La spontanéité des questions-réponses, due en grande partie au manque de recul par rapport au conflit, ne laisse pas suspecter une interview arrangée ou convenue d'avance, comme cela aurait pu être le cas un peu plus tard, dans d'autres circonstances, dans certains milieux journalistiques où l'autocensure pour faire dans le politiquement correct est reine. Que disaient ces témoins ? Jean-Francis Held était d'abord stupéfait. Alors que le climat en Israël paraissait très serein, de l'ambiance passionnelle dans laquelle était plongée la France. On s'en souvient peut-être pas. Mais en 1967, on se passionnait pour savoir ce qui se passait là-bas. À tel point que De Gaulle, quand il a su que c'était les Israéliens qui avaient attaqué les premiers, avait déclaré l'embargo sur les armes, sur les mirages qui étaient livrés aux Israéliens. Qui avait attaqué les premiers, avait déclaré l'embargo sur les armes, sur les mirages qui étaient livrés aux Israéliens. Or, très fébrile, son rédacteur en chef, Francis Held, lui disait au téléphone « Faites attention, vous ne vous rendez pas compte de l'ambiance qui règne ici. Nous recevons des lettres extrêmement violentes. Les gens s'opposent passionnément, etc. » Jean-Francis L. souligne le côté anti-arabe très violent d'une partie de la population française, suite à l'immigration, à la guerre d'Algérie, à beaucoup de choses. Autrement dit, une sorte de guerre civile larvée, si l'on en croit ce baromètre, commençait chez nous à s'emparer des esprits. Et l'on peut supposer, la précédente, qu'il en était de même dans les autres pays occidentaux, aux opinions partagées entre pro-juifs et pro-arabes, avec un avantage pour les juifs en raison des campagnes médiatiques en leur faveur depuis 1945. Ajoutons à cela qu'Israël se posa en victime, en faisant croire que les Arabes avaient attaqué les premiers. Voilà ce qu'écrit Held. La censure s'est manifestée dès avant la guerre en Israël. Efficace, stricte, mais pas draconienne. Les censeurs étaient des civils, avocats, intellectuels. Les seules informations qui étaient épluchées, on pouvait donc tout dire, les seules informations qui étaient épluchées étaient celles qui pouvait laisser croire à une agression de la part d'Israël. Vous pouvez tout dire sauf ça. Le journaliste en poste, il constate cela quand même. De son côté, Éric Rouleau, qui était en poste en Égypte, il affirmait que Nasser, alors à la tête de l'Égypte, et tenu par des accords avec la Syrie, ne voulait pas la guerre, parce qu'elle lui semblait absurde, étant donné le soutien que les Américains et les Anglais ne manqueraient pas d'apporter à l'État hébreu. « Je ne veux ni la guerre avec Israël, ni la paix, car cela est impossible. » Voilà ce qu'il disait. Et quand Éric Rouleau lui demanda comment il envisageait l'avenir, il leva les bras en l'air et il lui répondit « Si vous avez une formule magique, donnez-la-moi. » Il paraissait sincèrement désemparé, écrit ce journaliste. Mais devant les menaces que dans un esprit de provocation Israël fait planer sur la Syrie, le Raïs est pris dans un engrenage. Pour ne pas perdre la face aux yeux du monde arabe, il bloque le golfe d'Aqaba et se livre à des outrances oratoires qui le conduisent à promettre la destruction de l'État juif. Voilà ce que dit Nasser. Attaquer la Syrie, on détruit l'État d'Israël. Va jusqu'à dire ça. C'est bien ce que voulaient les Israéliens. Parole verbale, comme on dit, gesticulation, qui masque ce désarroi dont parlait Éric Rouleau. Et tout cela était mis à profit par les services secrets, les services psychologiques israéliens, pour justifier dans l'immédiat l'inquiétude simulée de l'État d'Israël. Vous voyez, on veut nous détruire. Et ultérieurement, son agression très calculée, pour dire on voulait nous détruire, donc finalement on a attaqué. Résultat, en tout cas, après la guerre au cours de laquelle les passions se seraient peut-être déchaînées en Occident si elle avait duré plus longtemps, le monde se réveilla devant le fait accompli de l'annexion irréversible de Jérusalem. Jérusalem, dont les Nations Unies, de même que le Vatican, recommandaient l'internationalisation dans leur résolution de 1947 et 49. Jérusalem, où les Talmudistes veulent reconstruire le temple pour accueillir leur Messie, tandis, comme nous l'avons dit, que les mosquées d'Omar et d'Al-Aqsa les en empêchent. Bien que l'idée de rebâtir le temple et traverser les siècles chez les juifs messianiques, bien qu'elle se soit concrétisée en 1996 avec Theodor Herzl, entre parenthèses, Theodor Herzl, qui fait figure de prophète moderne du retour des juifs dans la terre promise, envisagea tout d'abord de reconstituer l'État juif en Argentine, puis en Ouganda. Et Hitler, pour sa part, pensa à Madagascar, puis fit croire qu'il le reconstituerait en Pologne. Alors, bien que cette idée ait traversé les siècles, et qu'elle se soit concrétisée en 1896 avec Theodor Herzl, qu'elle que se soit consolidée en 1947 et 48 avec la fondation de l'État d'Israël, c'est surtout, nous l'avons vu, à partir de la guerre des six jours en 67 qu'elle commencera à paraître réalisable. C'est à partir de cette date que, selon Francis Held, va se produire la rejudaïsation d'Israël. Ils disent cela quand même, ces journalistes en poste là-bas, qui ne sont pas de nos amis. Pour le comprendre, déclare-t-il, il faut avoir assisté, comme je l'ai fait, à l'épisode du mur des lamentations, quand Moshe Dayan et ses militaires ont réussi à passer de l'autre côté du mur, sur l'esplanade, pour ainsi dire. J'ai vu les pieux assidites avec leurs payes, c'est-à-dire leurs papillotes, et leurs longues lévites noires déferlées du Meach et Harim, avant que la bataille soit terminée. Et certains même sautaient sur les mines pour arriver plus vite au lieu sacré. Vous voyez un petit peu cette espèce de fanatisme extraordinaire. On n'attend pas que les combats soient terminés, on fonce comme ça sur le mur des lamentations et derrière le mur des lamentations, pour ainsi dire. On saute sur les mines même qui n'ont pas encore été enlevées. Je les ai vus prier, phylactère au front et psalmodier sous les caméras américaines et dans les micros des reporters. J'aurais dû être profondément ému, mais il y avait là quelque chose de trop spectaculaire qui me gênait. Et partout, tout le temps, dans les jours qui ont suivi, on entendait la radio israélienne répéter comme un leitmotiv Yerushalayim, 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 Jérusalem, 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 Jérusalem. Il ajoute, c'était une obsession. À tel point donc que l'on peut se demander si la diversion que fut la guerre préventive des six jours n'avait pas pour but essentiel la prise de la ville sainte. Dans une telle atmosphère, ajoute Held en 1967, on ne peut envisager aucune discussion sérieuse sur une éventuelle internationalisation de Jérusalem. Eh bien, cette obsession n'est-elle pas celle qui conduit plus que jamais toute la politique israélienne? N'est-elle pas source de tous les dangers? Qui sait où mènerait la diversion d'une guerre préventive contre l'Irak ou tel autre pays arabe, puisqu'il cherche une guerre pour faire un coup d'éclat? Et quel plan se cache là derrière? En tout cas, porter la main sur les mosquées, dont l'histoire fait de Jérusalem la troisième ville de l'islam, ne provoquerait-il pas un djihad mondial, des guerres civiles et un chaos des nations? Là, tous les musulmans, de l'Arabie au Maroc, seraient complètement unis. Et avec l'infiltration en France et de tous les côtés, il faudra savoir qui est contre qui. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux, ce qui se passe là-bas. Alors, voyons maintenant le grand secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, dont tout le monde a parlé, ce qu'il écrit dans son ce chemin de Jérusalem. Intéressant, puisqu'il intitule le chemin de Jérusalem. Boutros Boutros-Ghali est connu comme un ancien secrétaire général des Nations Unies. Il l'est moins chez le français moyen pour son importante carrière diplomatique entre 1977 plutôt, et 1981 au service de son pays, l'Égypte. Copte, marié à une juive, issue d'une vieille famille monarchiste, durement éprouvée après la chute du roi Farouk sous le coup de boutoir des colonels en 1952, il exerçait son métier de professeur à la faculté des sciences économiques de l'université du Caire, quand en 1977, d'abord il avait fondé il avait participé à la fondation de cette université du Caire en 1960. Alors en 1967, il fut remarqué par le président Anwar el Sadat, successeur de Nasser, lequel était mort en 1970. Sadat le nomma ministre sans portefeuille pour mener des négociations avec Israël, alors dirigé par le cabinet de Faucon, Begin Dayan. Autrement dit, c'est un ministre sans portefeuille, c'est un envoyé spécial, pour ainsi dire, du président Sadat auprès des Israéliens. On est déjà en 77. Sadat est en place depuis 1970. Mais en 1973, il a fait une guerre éclair contre Israël. Ça n'a pas beaucoup abouti, mais enfin, il a montré qu'il avait une certaine force. Il sait qu'il ne peut pas vaincre Israël comme cela, que les États-Unis, l'Angleterre viendraient, c'est bien ce qu'avait dit son prédécesseur Nasser, il viendrait à la rescousse, etc. Mais enfin, il avait fait son petit coup d'éclat, ça l'avait posé auprès du monde arabe, et il se dit, je vais négocier avec l'Israélien, ce sera quand même admis par les États arabes, même s'ils rechignent. Je vais m'isoler dans un premier temps, mais enfin, peut-être qu'ils vont comprendre que j'ai raison. C'était tout un renversement de tendance. Sadat visait la récupération du Sinaï et de ses pétroles en échange d'un accord de paix. Il paraissait sacrifier la cause palestinienne au profit des intérêts de l'Égypte et s'isoler ainsi progressivement du monde arabe sur lequel son prédécesseur avait exercé parfois une véritable fascination. Cependant, un bon stratège pour ne pas trop s'isoler, c'est pour rompre cet isolement que le président égyptien faisait appel au talent de diplomate de Boutros Ghali. Le professeur de l'université du Caire devait marcher, le titre de son livre, sur le chemin de Jérusalem. Tout en apaisant la vindicte des pays arabes et non alignés, et il devait tâcher d'ouvrir en même temps d'autres perspectives que la guerre pour les Palestiniens. Si Sadat, voilà le calcul qui était dans la tête de Sadat, si Sadat, par les négociations, réussissait à récupérer le Sinaï, peut-être qu'Arafat pourrait lui emboîter le pas et obtenir des Israéliens des concessions en vue de la création d'un État palestinien. Je commence, on s'engouffrera peut-être derrière moi. Une dynamique dite de paix était enclenchée. Elle devait aboutir aux accords de Camp David, puis plus tard, à ceux d'Oslo, de Madrid, etc. Puis plus tard, au dialogue Rabin-Arafat, sous l'arbitrage américain, et à l'installation d'un pouvoir palestinien, comme on le voit maintenant, dans la bande de Gaza. Et la bande de Gaza, c'est à l'ouest, hein. Et c'est Jérusalem-Est qui nous préoccupe. Et la Cisjordanie, car il s'agit d'isoler les mosquées. Boutros Ghali nous entraîne, là, dans son livre, dans les méandres de ses tractations à travers le monde. En Afrique, en Europe, aux États-Unis, à Cuba, au Vatican et bien sûr en Égypte et en Israël. Son livre se lit d'ailleurs comme un roman d'aventure. Et peut-être qu'il s'exprime un peu librement parce que finalement il est à la retraite. À la retraite de l'ONU. Parce que les Américains ont vu que quand même il avait des sentiments pro-arabes, ils sont tout faits pour le faire éjecter du secrétariat général des Nations Unies. Alors Chirac l'a nommé secrétaire général de la francophonie. Alors il s'occupe de nous en ce moment pour nous faire basculer dans le mondialisme. Il faut le voir, ses conférences dans les universités à Nantes et ailleurs, ce qu'il dit, quoi. Bon, mais de cet ouvrage, je retiendrai essentiellement, pour ma démonstration, l'un des principaux passages sur Jérusalem, où le président Sadat réussit à se rendre en pèlerinage pour prier dans la mosquée Al-Aqsa le 20 novembre 1977, en prenant d'énormes risques. Il pouvait être assassiné par des Palestiniens furieux de ces accords. Ce passage illustre à lui seul l'obstacle insurmontable sur lequel achopperaient un jour tous les accords de paix. Boutros Ghali faisait partie de la suite de Sadat. Et voilà ce qu'il écrit. Moshe Dayan m'accompagna jusqu'à ma chambre, au dernier étage de l'hôtel King David. Une fois seul dans la pièce, j'allais aussitôt vers la fenêtre pour regarder les lumières de Jérusalem. Pourquoi cette ville, qui symbolisait la paix, avait-elle toujours été un lieu d'affrontement sanglant? Question, vous voyez. En voyant toutes les constructions édifiées par Israël, je frémis à l'idée que le monde arabe pourrait ne jamais rentrer en possession de Jérusalem. Je me revois enfant, en train de regarder ma mère Sophie faire ses bagages avant d'accomplir le pèlerinage du Caire à Jérusalem, un pèlerinage aussi important pour un copte que le Hajj pour un musulman, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque. Pendant un long moment, je contemplais la Jérusalem arabe. subjugué par l'instant, mais effrayé aussi par la démarche audacieuse que nous venions d'entreprendre. Une démarche semée d'embûches sur une route longue et inconnue. Jérusalem, la Jérusalem arabe, la Jérusalem occupée, la Jérusalem usurpée. C'est dire les prémonitions qui habitaient le diplomate dès le début des négociations. Et en effet, en 1981, Sadat était assassiné par les fondamentalistes islamistes, et en 1995, Rabin était assassiné par les fondamentalistes juifs. Alors, dans ces conditions, on a entendu en 1968, après qu'il ait reçu d'ailleurs des juifs orthodoxes au Vatican, Jean-Paul II faire un discours le 1er janvier 1998 devant le corps diplomatique. Alors lui, plus que jamais attaché à la réussite du jubilé de l'an 2000, tel qu'il l'entend. Et voilà qu'il pousse quand même un véritable cri d'alarme. La paix semble s'être éloignée du Moyen-Orient, dit-il. Le Saint-Siège garde envers cette région du monde une constante sollicitude. Le pape en particulier, en ces années qui précèdent le jubilé de l'an 2000, tourne son regard vers Jérusalem, la cité sainte, entre toutes, priant chaque jour pour qu'elle devienne bientôt et à jamais, avec Bethléem et Nazareth, un lieu de justice et de paix où juifs, chrétiens et musulmans pourront enfin cheminer ensemble sous le regard de Dieu. Alors voilà son œcuménisme, sa liberté religieuse, etc. qui est à la surface, mais quand même une inquiétude que tout cela soit mis par terre par ce qui risque d'arriver là-bas. Autrement dit, toute sa politique et toute sa vision du monde risque de s'effondrer complètement. Mais alors complètement. Donc le pape peut être inquiet. Et il a récidivé devant le corps diplomatique cette année, en 1999. Alors je parlais d'une année cruciale, celle de 1999 justement. Le 18 juillet 1996, dans le monde diplomatique, Amnon Kapeliouk, journaliste à Jérusalem, estimait qu'il restait 3 ans, d'après les accords signés avec les Palestiniens, pour faire traîner les discussions sur le statut final de la Cisjordanie et de Gaza. Ce qui pourrait laisser entendre que même la zone de Gaza, rétrocédée en partie à Yasser Arafat, n'est pas considéré comme intouchable par Benjamin Netanyahou, qui a toujours été partisan d'un grand Israël. En effet, pour lui, pour Netanyahou, pouvoir palestinien ne veut pas dire État palestinien. Nous n'acceptons pas d'avoir à appliquer avec 50 ans de retard une résolution rejetée en son temps par les Arabes, a-t-il déclaré le 25 novembre 1997. En faisant allusion à la décision prise par l'ONU le 27 novembre 1947 de partager la Palestine entre un État juif et un État arabe. En tout cas, si d'après tous ces accords, s'il restait 3 ans en 1996 pour d'une manière ou d'une autre résoudre ce problème, ceci nous reporterait à l'année 1999. La pression américaine sur l'Irak et dans le Golfe, un instant contenu dans des limites incertaines, n'indique-t-elle pas que de grandes manœuvres ont déjà commencé? D'après les accords, Arafat, au mois de mai de cette année, devrait pouvoir proclamer un État palestinien, érigé la zone de Gaza et Hébron en État palestinien. Les Israéliens ne veulent à aucun prix. Clinton est pris entre le lobby juif du Congrès américain et les intérêts américains dans les Émirats arabes et dans les pays arabes, les intérêts pétroliers américains. Alors de quel côté va-t-il pencher définitivement? Personne n'en sait encore absolument rien. Mais on voit tout un tas de partisans de la guerre essayer de précipiter quelque chose là-bas, en Israël, dans les pays arabes limitrophes, en vue de quelque chose de mystérieux qui ressemble à la prise de Jérusalem en 67, peut-être justement à la destruction des mosquées pour la reconstruction du temple, car c'est ça la vision d'Israël. Pour montrer, pour finir, l'influence justement des juifs orthodoxes sur le gouvernement israélien, on lit ceci dans une revue qui s'appelle Correspondance européenne du 20 septembre 1998. Ce simple communiqué, pour ainsi dire. C'est titré « Jérusalem, le temple sera-t-il reconstruit ?» Vous voyez, ça commence à transpirer un peu partout. Le 15 septembre dernier, donc 98, le mouvement ultra-orthodoxe israélien, Haïve Kayam, a donné une conférence au Palais des Nations à Jérusalem sur la reconstruction du temple. Donc ils font des conférences maintenant. C'est un projet qui circule depuis des années parmi les intégristes juifs, a commenté le journaliste du quotidien La Repubblica du 17 septembre 1998. D'après lui, ces intégristes sont régulièrement fichés, filés et arrêtés par la police israélienne, consciente que l'initiative déchaînerait une guerre sans précédent entre l'islam et l'État hébraïque. Mais maintenant, c'est devenu une croisade publique, appuyée aussi par des hommes du gouvernement. Voilà ce que dit la presse italienne, La Repubblica. Et en effet, le temple est l'âme et le cœur de notre peuple, a dit lors de la conférence le vice-ministre de l'instruction, Moshe Peled, qui a par la suite ajouté « Notre activité est une des plus importantes, positives et éducatives » qui existent aujourd'hui en Israël. Autrement dit, on nous dit ils sont fichés, c'est des juifs extrémistes, ils sont une minorité, ils sont 250 000 quand ils règnent dans Jérusalem, quand ils font un défilé, quand ils font une protestation, etc. Ils avaient en face d'eux, il n'y a qu'à regarder la presse, 50 000 laïcs simplement qui ont voulu faire une mobilisation. Ils ont rien, les juifs laïcs, pour ainsi dire, ils n'existent pas, quoi, devant cette emprise des rabbins d'Israël sur la politique, sur la société israélienne. Ils n'existent pas. Alors, on fait une grande conférence au Palais des Nations à Jérusalem, et qui c'est qui est là? Eh bien, le vice-ministre, quand même, de l'éducation nationale. Donc, le gouvernement patronne cela. On ne peut pas nous dire, ce sont des gens uniquement fichés, qu'on met en prison, etc. Oui, mais ça, c'est pour la forme. Voilà ce que je voulais. Je voulais attirer votre attention sur cette affaire qui risque d'être extrêmement grave. Et je n'ai pas de solution, sinon d'ordre surnaturel. Voilà. C'est tout.
Vous avez des questions à poser? Ça fait combien de temps que vous êtes focalisé sur cet aspect?
Ça fait 3-4 ans à peu près maintenant, oui. Mais, à vrai dire, je ne l'ai pas recherché, vous voyez. C'est pas, je ne l'ai pas recherché. J'ai beaucoup étudié Claire Ferchaud. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont contre. Mais moi, je suis pour. Parce que j'ai fait une enquête très longue là-dessus. Et elle dit textuellement qu'on va vers un chaos des nations. C'est-à-dire, si la messe perpétuelle n'est pas acceptée, elle disait ça dès 1922, elle s'est adressée à différents papes, à tous les papes, etc., etc., jusqu'à Jean-Paul II, pour ainsi dire, par l'intermédiaire de son véritable aumônier, qui avait été le père Huss, qui lui a succédé, pour ainsi dire, dans la transmission du message. Et elle dit que seule, véritablement, avec les prières de la Vierge de Fatima, la consécration à la Russie, de la Russie, etc., la messe perpétuelle, dans son rite intouché, dans son expression, manifesterait véritablement cette nouvelle Pentecôte dont on nous rabâche les oreilles et qui n'a jamais lieu parce qu'on prend des moyens humains. Elle dit que c'est le saint sacrifice de la messe qui sauvera l'humanité. Évidemment, elle va à l'encontre du temple. Hein, et voilà. Alors je me disais toujours, elle parle d'un chaos des nations, mais je suis un vieux blindé. Il y a toujours des guerres de tous les côtés. Mais le chaos des nations en lui-même, on ne le voit pas arriver. Chaos des nations. Qu'est-ce que ça veut dire, le chaos des nations? Et comment peut-il partir? On se disait au temps de la guerre froide, peut-être. Au temps de la guerre froide, il y a des fusées face à face. En 1989, brusquement, le mur de Berlin tombe. Mais non. Dans ses écrits, elle ne parle pas du mur de Berlin en lui-même, ni quoi que ce soit. Elle parle d'un chaos des nations. Comment le chaos des nations peut-il arriver? Et puis, tout à fait, le hasard a voulu que, finalement, je commence à découvrir cette affaire, les véritables intentions. Parallèlement, bon, j'ai vu qu'il y avait des spécialistes du Saint-Sueur de Turin, des amis qui défendent tout cela. J'estime qu'une des réponses de notre époque au Temple de Jérusalem, c'est le Saint-Sueur de Turin. Parce que le Saint-Sueur de Turin manifeste la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'était lui le véritable Temple. Alors, le résultat, c'est une réponse à ceux qui veulent reconstruire le temple pour y reprendre les sacrifices de l'ancienne loi. Il y a donc une confrontation d'ordre surnaturel, si vous voulez, entre notre Seigneur Jésus-Christ et les tenants juifs, bien souvent lucifériens, quand on voit les histoires de la Kabbale. Il y a quelque chose qui est en train de s'affronter, pour ainsi dire, qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous. Alors, je le vois, moi, maintenant, le chaos des nations, à partir de cela. Oui, parce que cette idée-là, c'est pas une affaire de pétrole. Vous comprenez? Une affaire de pétrole, ce sont des intérêts qui sont en jeu, etc. C'est une idée mystique. C'est une idée messianique. C'est une idée qui a une force que n'ont pas les avions à réaction qui se ou quoi que ce soit. C'est une idée qui peut mettre le feu au monde entier. Déjà, on voit dans cette presse européenne déjà des signes. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à étouffer cette affaire de façon à ce que finalement, quand même, ça se règle par des voies pacifiques, etc. Je ne le crois pas. Parce que le peuple israélien est mis en condition. Vous savez, celui qui a assassiné Rabin, il passait pour un héros, comme un saint. Il faut voir dans les lettres qu'il a reçues en prison, etc. C'est comme un envoyé de Dieu qui a commis cet acte. Vous voyez, ils sont véritablement fanatisés. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux. Et quand on sait que les musulmans, quand ils sont fanatisés à leur tour, eux aussi, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Algérie maintenant, eh bien, on arrive à un affrontement qui risque de devenir... Moi, j'ai vécu à Constantine, au milieu des juifs et des musulmans. Vous pouvez enlever ça là. J'ai vécu à Constantine, au milieu des juifs et des musulmans. Et à la fin de la guerre de 1945, il y a un juif qui a uriné contre une mosquée. Et il y avait un général, le général Duval, qui commandait à l'époque la place de Constantine. Il a été obligé, parce qu'il y a eu des affrontements sanglants entre juifs et musulmans à cause de cet acte. Si vous voulez, en tout petit, là, j'ai vécu ce qui risque de se passer en grand. Et le général Duval, pour séparer les deux communautés, avait été obligé d'employer les tirailleurs sénégalais dans les quartiers. Alors, les frères sémites ne sont pas faits pour s'entendre. Les fils d'Agar et les fils de Sarah, vous voyez, Sarah et d'Agar ne s'entendent pas. Mais alors, à plus forte raison, quand il s'agit de quelque chose de religieux. Les Arabes, eux aussi, les musulmans plus exactement, se réclament d'Abraham, comme les juifs, ils se réclament de la religion d'Abraham. Alors c'est pourquoi, je vous dis, là, pour eux, cette pierre sur laquelle leur prophète, etc., sur laquelle Abraham a failli immoler son... Alors pour eux, c'est la troisième ville de l'islam, ça fait 13 siècles qu'ils ont construit cela. Ils mettent de l'argent, ils ont fait le dôme du rocher. Vous avez vu quelques années, là, l'argent englouti par l'Arabie Saoudite, par la Turquie, par ceci, par cela, pour justement faire un dôme doré, en or, enfin, des trucs extraordinaires. Il ne faut pas quand même leur toucher ces deux mosquées-là. Parce qu'alors, à ce moment-là, ça, c'est quelque chose... qui mettrait le feu aux poudres dans le monde entier. Et on n'est pas à l'abri ici en France, à cause de l'infiltration musulmane, de l'infiltration islamique, d'un djihad auquel on risque d'être confronté, ça qu'on le veuille ou pas. De toute façon, pour les... Déjà, quand on était en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, les musulmans disaient de nous qu'on était vendus aux juifs. J'ai vu des tracts dans mes boîtes aux lettres, dans ma boîte aux lettres à Constantine. On était vendus aux juifs, d'après eux. Bon, ça traînait depuis le décret Crémieux de 1870, qui leur avait donné... aux juifs la nationalité française, et puis par eux les musulmans qui cependant avaient combattu à nos côtés dans l'armée d'Afrique, etc., etc., etc. Alors petit à petit, évidemment, ces idées-là, bon, en plus de cela, quand on voit nos lois sur l'avortement, sur ceci, cela, pour un musulman ça ne peut pas être admis. Vous comprenez le problème? Alors ils nous méprisent. Autant ils admiraient le général de Saunis, qui cependant leur a serré la vis à Djelfa, ils vont jusqu'à écrire, la Gad El Arba, et écrivait que le général de Saunis, eh bien, comment il disait ça, sa religion, sa piété le rendait agréable à Dieu et sa religion faisait notre amour pour lui. Parce qu'ils avaient en face d'eux un véritable chef catholique, catholique traditionnaliste. Vous voyez, de l'époque, quoi. Alors, à ce moment-là, d'un seul coup, bon, c'est comme en face de Saint-Louis, amen, c'est comme Abdelkader qui a voulu se rendre au général Lamoricière, parce que le général Lamoricière, c'était un Vendéen, et puis qu'un Vendéen, c'était un chrétien, un catholique, et qu'il n'avait qu'une parole, parce que ce n'était pas un athée. Alors, quand on regarde nos libéraux qui nous dirigent, nos athées, nos libéraux, que ce soit Chirac, là, que ce soit Mitterrand, etc., les musulmans nous méprisent. Ils nous méprisent. Alors, finalement, on comprend pourquoi nous sommes partis d'ailleurs d'Algérie. Et pourquoi maintenant, finalement, avec cette infiltration, il se dit, les Français, c'est rien du tout. Les Allemands non plus, non, ne croyons pas. Ils se sont pourris depuis la fin de la guerre, etc. Tout ça, c'est un fruit mûr qui va tomber dans les mains. D'ailleurs, nous, pendant ce temps, on gagne du temps. On n'est plus au temps des croisades. Hein. Il n'y a pas de front, il n'y a rien du tout. On s'infiltre, on gagne du temps. Comme disait leur président Boumédienne, on aura la France par les ventres de nos femmes, c'est-à-dire par toutes les naissances. Eux, ils ont la loi sur l'avortement, c'est très bien pour eux. Alors comme ça, ils ont moins d'enfants. Nous, on en fabrique de plus en plus, etc. Et croyez-moi, je ne suis pas... J'ai beaucoup de sympathie pour eux. C'est drôle, hein, parce que je suis un Français d'Algérie. Mon père a fait d'un musulman un notaire. Il a payé toutes ses études, etc. Racisme, on ne connaît pas. Mais il faut être réaliste. Il faut regarder quand même ce qui se passe. Vous voyez ? Je connais un musulman là qui s'est converti au catholicisme. Il voulait, à un moment donné, il cherchait. Et avec ses deux enfants, il s'est fait baptiser par le prieuré Saint-Louis à Nantes. Mais au départ, il avait pris contact avec l'église conciliaire, c'est-à-dire avec l'évêché de Nantes. Je me suis trouvé sur son chemin, alors il disait qu'il allait faire un catéchuménat. Alors je ne l'en ai pas dissuadé. J'ai dit allez-y. Mais si pour une raison quelconque vous vous sentez mal à l'aise, faites-moi signe. Au bout d'un certain temps, il m'écrit, il me dit oh, non, non. Je vais aux réunions là-bas, les prêtres ne s'occupent pas de moi. Ils ne parlent que de social, ils ne parlent pas de Dieu, personne ne parle de Dieu. Alors je sais que pour un musulman ne peut embrasser la foi catholique que dans la tradition. Un musulman qui veut se convertir au catholicisme ne peut le faire que dans la tradition. Sans ça, c'est pas possible, ils sont en porte-à-faux. Alors il disait cela. Alors, quand j'ai vu qu'il était gêné, qu'il disait qu'il n'était pas dans son assiette, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis entre les mains du père Reynaud qui se trouvait au Raflet et qui l'a catéchisé avec ses enfants pendant quelque temps. Et d'ailleurs, il aurait dû être baptisé par le père Reynaud quand le père Reynaud est mort subitement. Et c'est là où on voit la délicatesse d'âme de ces gens-là quand ils embrassent la religion catholique. C'est-à-dire qu'ils sont exactement l'inverse du pouvoir de destruction qu'ils auraient, comme disait un monsieur là, en tant que musulmans, arabes, arabes musulmans. C'est encore plus terrible que kabyles musulmans, vous voyez, arabes musulmans. Eh bien, quand il a été pour être baptisé, on lui a fait valoir qu'il devait avoir un prénom chrétien. Alors je lui avais suggéré, puisqu'il est né à Sidi Bel Abbès, que bon, ben dans le fond, il n'y avait qu'à choisir Saint Augustin, qui était un saint d'Afrique du Nord, Saint Cyprien, un martyr. J'y avais cité voilà un prénom que vous pourriez prendre. Non, il m'a dit, mais ça y est, j'ai trouvé mon prénom. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Jean. Pourquoi Jean? Parce que c'était le prénom du père Reynaud. Jean Reynaud, celui qui m'a catéchisé. Vous voyez, c'est admirable ça. On voit cette délicatesse tout de suite. Et bon, alors maintenant, certainement, il sera au pèlerinage de Chartres. Bon, c'est un néophyte. Vous voyez ça. L'intégration des musulmans ne peut se faire que par la conversion. C'est ce que disait le père de Foucault. Or, l'Église conciliaire dit qu'on peut se sauver dans n'importe quelle religion, pourvu qu'on soit, soi-disant, un honnête homme. L'évangélisation s'est arrêtée. Je disais tout à l'heure à table, là, à M. l'abbé, que j'ai découvert qu'en France, il y avait 4000 à 6000 kabyles catholiques qui ont fui l'Algérie. 4000 à 6000. 4000 à 6000 qui ont fui l'Algérie. Cependant, en Algérie, ces gens-là, influencés par Monseigneur Duval, etc., n'étaient pas pour l'Algérie française. Mais ils ont été persécutés ensuite par les islamistes arabes, et les voilà, pour ne pas subir le sort des moines de l'Atlas, si vous voulez, les voilà donc ici en France. Alors, ils sont regroupés en associations. À eux, ils sont merveilleusement intégrés, parce qu'ils sont catholiques. En 1958, ils n'étaient que trois à être convertis par les Pères Blancs. Et encore, à cause des lois anticléricales de l'époque, qui allaient dégénérer petit à petit sous la Troisième République, etc., ces trois catholiques de 1858 ont été baptisés à Rome clandestinement, dans l'église Saint-Nicolas. Ils sont quand même devenus 4 à 6 000. C'est-à-dire que l'évangélisation du milieu par le milieu, moi quand j'étais en Algérie, je croyais qu'il n'était qu'une poignée de convertis. Et je me disais, bon, je connaissais le nom du professeur Ibazizène, d'un dénommé Abon Rouge qui était un écrivain, de ceci, de cela. Mais je n'imaginais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Ils sont en France, là, maintenant, mais ils sont chapeautés par l'évêché de Paris. Et leur aumônier, c'est Monseigneur Bose. Le résultat, c'est qu'avec la nouvelle théologie, alors qu'ils pourraient faire un bien énorme dans leur milieu, parce qu'il y a encore des musulmans dans leur famille, dans leurs anciennes familles, dans ceci et cela, l'évangélisation s'est arrêtée. On témoigne. Bon. Et même s'il y a des gens, des musulmans, kabyles, qui voudraient quand même se convertir, c'est arrêté. Le clergé conciliaire fait des difficultés. Alors, ça s'est arrêté. Alors que pour endiguer justement l'infiltration islamiste en France, ces gens-là, s'ils étaient dans la tradition, pour ainsi dire, il y en a quelques-uns quand même qui en pensent pas moins. Bon. Ce serait déjà, ça formerait un des remparts. Vous comprenez? Mais non. Et alors ils sont vulnérables, parce qu'ils sont repérés par les islamistes eux-mêmes, qui se disent, c'est des traîtres à la religion musulmane, etc., etc. Ils sont repérés, ils sont fichés, ils sont... Bon, voilà. On est davantage menacés actuellement qu'au temps des croisades. Parce qu'au temps des croisades, il y avait des fronts. On s'affrontait. À les pentes, il y a les musulmans d'un côté, les catholiques de l'autre. On se donne une dérouillée. On va à Saint-Jean-d'Acre, on se donne une dérouillée. On va ailleurs, on se donne une dérouillée. C'est d'accord. On gagne, on perd, etc. Les chevaliers, les croisés ont contenu l'islam. Mais il y avait un front, tandis que là, maintenant, il n'y a pas de front. Et la nouvelle théologie fait que l'Occident, ce qu'il en reste de chrétiens, est davantage menacé qu'au temps des croisades. Parce que ils sont comme un poisson dans l'eau. Vous comprenez? On ne sait pas qui est ami, qui est ennemi, qui est qui. Et peu à peu, par la loi du nombre, ils sont en train de nous submerger. Et comme l'islam a ce côté intégriste qu'on trouve dans certains versets du Coran, ce sont toujours, si on n'est pas les plus forts, si on n'est pas des chrétiens convaincus, ce sont toujours les intégristes musulmans, les islamistes, qui entraînent l'ensemble du monde musulman derrière eux. Tant qu'on est les plus forts, ça va, mais à partir du moment où on n'est pas les plus forts, ils nous écrasent. Ça, il n'y a aucun problème là. C'est une réalité. Alors je ne sais pas comment on va s'en sortir s'il y a encore cette affaire là-bas du Moyen-Orient. Bon, j'ai fini de parler quand même.